Françoise Chevelier, La maison de cristal. Quelques rares passants avaient coutume de s'engager dans la petite ruelle pour rejoindre plus rapidement le faubourg de la Piquichante. Vaste artère bruyante dans laquelle les voitures circulaient à coups de klaxon, l'axe menant du nord au sud coupait la ville en deux, avec d'un côté les beaux quartiers et de l'autre un ramassis d'immeubles de guingois. Trois étages maximum dans lesquels des familles entières s'entassaient. La ruelle, justement, marquait en quelque sorte la frontière entre les deux. Cette venelle était ombragée de verdure, bambou, tuya, buis, houx et même un pin qui résistait à n'importe quelle saison avec le courage que peuvent avoir les plus maigrillots. Enfin, c'est ainsi qu'on le formulait, pour signifier qu'été comme hiver, on avait toujours besoin de la lumière électrique. Au beau jour, le soleil était trop haut, et pendant l'automne ou l'hiver, trop bas. Restait le printemps, et chacun des locataires calculait le nombre de minutes où l'astre daignait apparaître. Pour certains, d'ailleurs, ce n'était qu'un reflet indirect, réfléchi par une fenêtre du dessus. Mais tous s'entendaient à dire que le soleil était bien bon en cette arrière-saison. Les gens se connaissaient, et on aurait dit un village semblable à tous les autres, avec ses commérages entre vieilles gens, les litanies habituelles de récrimination, et les jeunes en mobilette, qui, en soirée, frimait devant la cruelle absence des filles. Celle-ci avait vite compris que la rue du Faubourg était infiniment plus exotique pour qui veut rencontrer l'âme sœur, et de plus en plus, les garçons les rejoignaient pour se balader. Alors le calme revenait. À la belle saison, on sortait sur le pas de la porte, où on poussait au-delà vers les quartiers chics, on repérait les entrées des immeubles avec leurs pavements de marbre, on commentait le plaisir qu'on aurait à vivre ici, puis on rentrait, chargé de ces choses qui faisaient des souvenirs. On en parlerait demain encore, et peu à peu, on finirait par croire qu'on y avait vécu. Dans le fond d'une minuscule cour, totalement enclavé au cœur des bâtiments, un pavillon dressait son toit de verre avec l'arrogance des vaniteux. On l'appelait la maison de cristal. Cette construction suscitait bien des discussions autour de la grave question de la quantité d'heures de soleil dont ses heureux propriétaires disposaient. On prétendait que son imbrication au milieu de tant de logements interdisait l'accès de toute lumière, et secrètement, chacun s'en réjouissait, tout en ne l'avouant pas à haute voix. Il est de petites mesquineries que les autres n'ont pas besoin de savoir. On ne voyait jamais les gens de cet îlot, sorte de bulle incongrue dans cet enchevêtrement de murs qui parfois n'étaient que des cloisons. Peut-être était-il fier, ou travaillait-il de nuit. Peut-être était-il malade. On n'en savait rien, mais il fallait bien qu'il y ait quelque chose pour expliquer le fait que personne ne puisse partager un petit bonjour avec eux si l'occasion s'était présentée, ou l'échange d'une franche médisance avec les habitués du quartier. Rien de tel que le partage d'une rumeur pour entretenir les bonnes relations. Et là, faute d'une matière première un tant soit peu conséquente, le cœur n'y était pas vraiment. De temps à autre, un habitant prétendait avoir rencontré une personne supposée venir de la maison de cristal. En apparence, on n'y accordait qu'un intérêt relatif, mais par devers soi, on était endevé d'une telle impuissance à n'en savoir pas plus. Pendant ce temps, il se passait de drôles de choses dans la maison de verre. Des fluorescences s'allumaient de façon aléatoire, grâce à une transition spontanée de molécules, mais on les voyait seulement la nuit, lorsque tout autour chacun était occupé aux tâches du soir, la préparation du dîner, ou la lecture du journal, ou le bain des petits. Bref, toutes ces activités qui retiennent à la maison les femmes et les hommes passaient une certaine heure. Et si on ressortait après, dans le noir, les lumières étaient là, sans qu'on puisse savoir à quel moment les occupants étaient arrivés. Certains petits malins s'étaient bien postés en faction pour surveiller le passage des mystérieux occupants. Jamais pourtant on n'avait pu dire avec certitude s'il s'agissait d'eux, tant les ombres se glissant vers les habitations étaient différentes, ordinaires ou grotesques, et mêlant le frêle à l'énorme, sans qu'on puisse en conclure quoi que ce soit. Les pièces de la maison de cristal s'organisaient autour d'un escalier menant à une mezzanine placée juste sous l'énorme dôme de la verrière. Des souris s'y étaient installées, et, la nuit venue, elles menaient leur vie comme elles l'entendaient. Elles s'affairaient à leurs occupations favorites, trottinant de la cuisine au salon. Les mères nourrissaient leurs bébés, les jeunes chahutaient ou tentaient leur chance avec des demoiselles farouches. Les adultes travaillaient d'ardeur à constituer des réserves de nourriture et à se reproduire. En fait, tout était conforme à l'ordre des choses. La nuit venue, elles se regroupaient sous la verrière, s'installant à leur place préférée. Elles observaient le ciel en devisant. De temps à autre, les nuages cachaient la lune et les étoiles, et elles commentaient les formes qu'ils pouvaient prendre. À certains moments, le crépuscule offrait des couleurs qui faisaient rougeoyer les tapis et mordoraient les murs de crépi blanc. Parfois encore, elles voyaient passer dans les ténèbres un vif trait de lumière et presque toutes de s'exclamer sur la beauté des étoiles filantes. Même celles qui ne s'étaient aperçues de rien. Cependant, leur sujet de prédilection, c'était les êtres humains. Elles s'étonnaient de leur comportement et les jugeaient avec une grande sévérité. N'avaient-elles pas entendu des propos suspicieux, voire inconvenants, à l'égard des habitants de la maison? Elles étaient sûres que la curiosité qui les animait n'était pas clair du tout, et elles y devinaient quelque chose de malsain qui polluait l'atmosphère du quartier. Cette observation n'était pas le résultat de leur sortie, elles n'en faisaient aucune, et la seule fois où un souriceau s'était aventuré dehors, on ne l'avait jamais revu, mais celui de la finesse de leur nez. Or, pour une souris délicate, ce qui est impur se sent de loin. Autant dire qu'elle se gardait de toute fréquentation, et, ayant fort affaire chez elle, elle n'éprouvait pas le besoin de se promener à l'extérieur. Les générations précédentes avaient probablement beaucoup voyagé, et peut-être y avait-il quelque part d'autres membres de leur tribu. Toutefois, elles étaient d'ici. L'éventuelle diaspora de leur peuple ne les poussait pas vraiment à s'interroger, et personne ne les obligeait à s'exiler dans de lointains pays pleins de poussière ou à la lisière des champs dévastés par le feu, la guerre, toutes ces choses idiotes inventées par les humains et pour les humains. Dans les villes, d'énormes races sévissaient et la famine rôdait. C'est du moins ce que racontaient les plus vieux, qui le tenaient de leurs ancêtres, qui l'avaient appris de leurs aînés, et ainsi de suite jusqu'à la nuit des temps. Ça fonctionnait comme un mythe auquel se raccrochait chaque fois qu'une discorde prenait des proportions excessives. On menaçait de renvoyer les plus virulents dans le chaos originel qui avait précédé l'existence du groupe, et en général, ça suffisait à les calmer. Quoi qu'il en soit, nées en ces lieux, elles n'aspiraient qu'à y mourir aussi. Conversant ainsi, les souris surveillaient jalousement le monticule autour duquel elles s'étaient installées. Dans un fauteuil protégé de draps autrefois blancs, un magnifique macabée se tenait bien droit dans ses bottes, le visage riant à pleine bouche face aux étoiles. Les chairs déshydratées s'étaient momifiées, et elles demeuraient en l'état depuis bientôt un siècle. Les souris avaient oublié le jour de leur première rencontre avec lui. C'est si court la vie d'une souris qui n'est que pur présent. Mais jamais elle ne s'était permis le moindre écart vis-à-vis de leur hôte. C'était là une décision commune, prise il y a fort longtemps, du temps où cette colonie, ayant élu domicile dans la maison de cristal, avait dû reconnaître qu'elle ne pouvait pas vivre ainsi, sans foi ni loi, et qu'il fallait d'urgence mettre de l'ordre dans tout cela. Ainsi, le respect du mort n'était jamais transgressé, et la tradition se maintenait, pendant que le propriétaire des lieux trônait, tel un roi, sur l'éternité.